Le magazine des sports. Une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir par les sports mécaniques.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Tout reste à faire dans ce championnat du monde 2025 pour le titre chez les pilotes. C'est Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix du Qatar en faisant déjouer tous les pronostics, notamment ceux de McLaren. Et alors que Lando Norris avait l'occasion de remporter son premier sacre dans la discipline, mais le Britannique n'a terminé que quatrième. Christopher Filhoc pour Europe 1.
La faute à une stratégie de course ratée de la part de McLaren. Et il n'en fallait pas plus à Max Verstappen pour remporter son septième Grand Prix de la saison, rester dans la course pour le titre de champion du monde, le Néerlandais à l'arrivée.
Une course incroyable pour nous. Je suis super heureux de gagner ici. Une bataille jusqu'au bout, incroyable.
Il y a 9 Grands Prix, l'insubmersible Max Verstappen comptabilisait 104 points de retard sur le leader du championnat. Il en compte désormais plus que 12. Le suspense reste donc entier alors que 25 points seront attribués au vainqueur du prochain Grand Prix. Noël approche et la Formule 1 nous offre un très beau cadeau, un final fantastique. Rendez-vous compte, il faut remonter à 2010, il y a 15 ans, pour voir plus de 2 pilotes se disputer le titre de champion du monde au dernier Grand Prix. Cette année, ils seront 3. Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen.
Et tout se jouera donc lors du dernier Grand Prix de la saison 2025. Ce sera dans une semaine à Abu Dhabi.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et puisqu'on parle sport mécanique, ce nouveau titre de champion du monde en rallye cette fois-ci pour Sébastien Ogier, le Français a décroché hier sa 9e couronne en WRC.
Tout beau, tout neuf, à l'âge de 41 ans et alors qu'il ne prend plus part à la totalité des épreuves du championnat du monde, eh bien Sébastien Ogier a réussi à retrouver sa couronne mondiale. Il a terminé en réalité troisième de la grande finale en Arabie Saoudite. Un résultat suffisant pour redevenir champion du monde. Il avait tout raflé, souvenez-vous, de 2013 à 2018. Il succédait alors à Sébastien Loeb, déjà 9 fois champion du monde des rallyes. Il s'était encore imposé en 2020 et 2021. Et donc, cette fois, 4 ans plus tard, un sacre en 2025. Désormais, les deux Français, Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, sont ex aequo les deux pilotes de rallye les plus titrés en WRC. Réaction de Sébastien Ogier.
C'est génial de rejoindre Seb, être tout en haut du palmarès du WRC. C'est une fierté qu'on devrait avoir en tant que Français. Ça a été ma plus belle saison en termes de performance et de régularité. Donc c'est génial de pouvoir faire ça à bientôt 42 ans encore.
Et Sébastien Ogier, champion du monde, alors qu'il avait manqué 3 dates du calendrier cette saison, en Suède, au Kenya et en Estonie. Il est en semi-retraite depuis la saison 2022 et ne court que sur des étapes choisies. Et pourtant, il a bien réussi à gagner 6 rallyes cette année. À noter que sur cette dernière épreuve du championnat du monde, la victoire est revenue au Belge Thierry Neuville, alors qu'un autre Français, Adrien Fourmeau, s'est classé deuxième.
On va passer au sport collectif, Léo Fichou. On va commencer par le football avec ce changement de leader en Ligue 1. Après la 14e journée, c'est en effet Lens qui occupe la tête.
Oui, les Lensois se sont imposés 2-1 sur Angers, profitent de la défaite du PSG 1-0 contre Monaco et du nul de l'OM de partout face à Toulouse pour monter sur la première marche du podium. Le PSG reste deuxième, Marseille troisième. Derrière, Lille, Rennes et Lyon se sont imposés, se rapprochent du trio de tête. Les Dogues ont dominé le Havre 1-0. Même score pour les Rennais face à Metz. Les joueurs de l'OL, eux, ont écrasé Nantes 3-0. En bas du classement, on peut le dire comme ça, Nice continue de sombrer. 3 défaites, 3-1 contre Lorient. C'est la 6e défaite consécutive. Toute compétition confondue pour les Aiglons. Dans les derniers résultats, victoire de Brest 2-1 sur Strasbourg et match nul 1 partout entre le Paris FC et Auxerre.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le rugby, c'est le Top 14 et le duel ce matin entre la section paloise et le Stade Rochelet qui a tenu toutes ses promesses. C'était la clôture de la 11e journée.
Oui, en supériorité numérique tout le match. Après le carton rouge reçu par Antoine Astoy dès la 34e seconde, les Palois se sont imposés avec le bonus offensif sur les Rochelais. Victoire 53-33. La section paloise continue donc de suivre le rythme du Stade Toulousain, toujours en tête du classement. Les stadistes qui ont pu compter sur le retour d'Antoine Dupont ont dominé le Racing 92 ce week-end, le score 48-24. Victoire également de Toulon, 3e, 54-28 sur Montauban. En revanche, l'UBB, de son côté, a sombré sur la pelouse de Montpellier, défaite de justesse 24-28. Défaite également du Stade français à Clermont, 32-36. Perpignan s'incline encore et toujours, 7-23 contre le Castres Olympique. Et puis l'aviron bayonnais est venu à bout du Loup Lyon, 22-20.
Allez, on va passer maintenant à l'actualité du handball, belle actualité du handball, avec notamment le mondial féminin qui a débuté, vous le savez, Une Calédonienne brille avec l'équipe de France, c'est Suzanne Wojcicka et Michael Juneski. On en parle avec nos invités.
Exactement, dans les studios d'RRB, Olivia Vaitanaki, elle est responsable du Pôle Espoir. Bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, Yann Collet, le président de la Ligue Calédonienne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, on redonne les dernières infos. Évidemment, ce mondial de handball féminin qui a débuté ce week-end. Aujourd'hui encore, l'équipe de France qui a dominé la Chine sur le score de 47-21. Déjà samedi, face aux Tunisiennes, elle s'était imposée sur le score de 43-18. Et surtout, Suzanne Wojcicka, évidemment, qui a encore réussi aujourd'hui un 7-7. Samedi, c'était 10-10 contre les Tunisiennes. Elle a déjà été baptisée Madame 100% sur certaines chaînes qui diffusent l'événement. Olivia Vaitanaki, voilà, c'était attendu de longue date. Suzanne Wojcicka dans la cour des grands, un championnat du monde. Et elle répond présent, ça vous fait quoi ?
C'est beaucoup de fierté, bien sûr, hein. Parce que bon, on l'a connue à 15 ans, on l'a accompagnée tout le long de sa carrière. Et de voir qu'elle arrive à concrétiser aujourd'hui tous ses efforts, c'est vraiment une grande fierté et beaucoup de joie de l'avoir évolué à ce niveau-là.
Yann Collet, voilà pour le handball calédonien. C'est un grand moment. Ça y est, Suzanne Wojcicka en équipe de France A, en équipe de France pour un mondial. C'est important à vos yeux ?
C'est très important. Ça donne de l'espoir à tous nos jeunes. C'est un exemple vraiment pour tous nos jeunes handballeurs sur le territoire. Et bon, je pense qu'elle ira encore très loin.
Alors, un petit mot global sur cette compétition. Olivia Vaitanaki, ce n'est que le début. La Chine, la Tunisie. Un mot aussi sur cette équipe de France. Évidemment, le handball, c'est un sport collectif. Suzanne Wojcicka, évidemment, la suit de près, mais on a toujours suivi les performances des Bleus. À quoi il faut s'attendre dans cette compétition ? Il y a un petit bémol aujourd'hui. Il y a un petit bémol dans ce groupe France, c'est les blessures. Il faut en parler.
Voilà. Alors déjà, c'est un groupe qui a été très remanié puisqu'il y a eu pas mal de joueuses qui sont parties pour grossesse, donc Estelle Nziminko, Chloé Valentini ou Laura Flip, qui sont vraiment des piliers de l'équipe de France. Ça permet de donner de nouvelles responsabilités aux jeunes comme Tamara Ouracek ou Léna Granvaux. Et voilà, Suzanne fait partie de cette génération qui est là pour renouveler l'équipe de France et d'essayer de maintenir le niveau qu'il y avait sur les années précédentes, en sachant qu'elles sont tenantes du titre. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités. Elles ont commencé brillamment leur mondial avec la Tunisie et la Chine. Et là, on va rentrer de plus en plus dans des matchs sérieux où on va pouvoir voir si elles sont au niveau attendu au mondial.
Et d'ailleurs, dès mercredi matin pour nous, ce sera la Pologne, premier adversaire européen. Là déjà, c'est un autre cas de figure. On monte crescendo dans la compétition, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans des mondiaux.
Exactement. Donc là, on sait qu'elles sont qualifiées pour le tour principal. Elles vont rencontrer la Pologne pour finir la première phase. Et derrière, on va avoir les Pays-Bas, qui est pays hôte aussi, donc qui a fini aussi champion du monde en 2019. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet. Et on va pouvoir voir si Suzanne est capable de réitérer ses performances.
Alors justement, qu'est-ce qui fait la différence à ce niveau-là d'une compétition ? Est-ce que c'est l'habitude de jouer ensemble ? Est-ce que c'est la répétition des combinaisons ? Qu'est-ce qui fait qu'une équipe peut arriver à performer ou pas ?
Alors, tout est important, tout se joue dans le détail à haut niveau. Donc, ça va être, bien sûr, tout ce qui est affinité, le fait de s'entraîner régulièrement ensemble. Et puis, c'est vrai que là, cette équipe, elle est jeune. Donc, elles ont fait des championnats du monde junior. Nina Dury, qui est au même poste que Suzanne, elles ont fini championne du monde, mais junior. Et là, il va falloir, justement, on est dans la cour des grands et d'avoir ce petit quelque chose pour passer le cap.
Alors, je crois savoir que vous continuez d'échanger depuis toujours, régulièrement, oui, avec Suzanne. C'est quoi les dernières nouvelles, d'ailleurs ? On sait que quand elle est dans une compétition d'un tel niveau, elle est beaucoup dans sa bulle, mais vous gardez un lien privilégié avec elle.
Oui, après chaque match, on se fait toujours un petit débriefing. Moi, je suis pas sa coach sur l'équipe de France, mais c'est vrai que j'ai un regard extérieur. Et ça permet d'échanger librement avec elle sur son ressenti, comment aborder la suite. Je connais ses points forts et ses points faibles. Donc j'essaye de l'accompagner au mieux et d'être positive pour qu'elle attaque la prochaine phase.
Selon vous, voilà son état d'esprit pour le moment, avec ce qui s'est passé ces premiers matchs, il y avait déjà eu toute la phase de préparation en amont, mais là voilà, 10-10 contre la Tunisie, 7-7 encore contre la Chine, ça la met dans la meilleure optique en tout cas pour aller encore plus loin.
Voilà, alors elle est dans la meilleure optique, mais il y a aussi beaucoup de pression parce qu'on s'attend toujours à ce qu'elle fasse au minimum la même chose. Donc c'est de garder les pieds sur terre, continuer à travailler, rester sur des objectifs assez clairs et sur du concret pour qu'elle puisse continuer à avancer de manière positive.
Yann Collet, j'imagine que toute la famille, la grande famille du handball calédonien, depuis qu'on sait que Suzanne Wojcicka avait sa carte à jouer et qu'elle était intégrée ensuite dans le groupe France, attendait de près à pouvoir suivre ses performances, même à distance.
Oui, je pense qu'il y a pas mal de Calédoniens qui suivent les résultats, les matchs si possible, hein, donc ils sont à suivre sur des chaînes, donc sur TFX notamment, qui est une chaîne sur laquelle on peut suivre tous les matchs. Donc c'est vrai que je pense que derrière elle, il y a du monde. Les jeunes, surtout, je pense, quand elle est venue en vacances l'année dernière, elle a eu un accueil extraordinaire dans des clubs, même quand elle allait s'entraîner sur sa préparation physique au bord de l'Anzvata. Donc oui, je pense qu'elle est très attendue.
Alors justement, voilà le cas de Suzanne Wojcicki. On va continuer de la suivre tout au long de ce mondial. Ce n'est que le début, évidemment. On aura l'occasion de reparler d'elle et on espère qu'elle ira le plus loin possible avec toute l'équipe de France. Un mot global justement sur... elle était la précurseuse, on va dire. Vous l'aviez déjà annoncé comme ça, en quelque sorte, l'une des premières à partir vers cette grande aventure. Depuis, ils sont nombreux. Où en est-on dans tous ces Calédoniens passés par les structures qui ont fait leur grand début ici et qui ont ensuite évolué du côté de la métropole?
Alors aujourd'hui, on a 5 jeunes qui évoluent à un niveau professionnel. Donc on a, c'est vrai, Suzanne qui a explosé, mais on a aussi Maravama qui est en équipe de France U20, qui a fait le championnat d'Europe, qui joue à Chambray-les-Tours, qui fait une Coupe d'Europe. On a Nora Folitou qui joue à Toulon avec Julia Mounanoa. On a aussi Jean-Philippe Takaniwa qui est sur Cournon en Pro League. Donc c'est aussi un bon parcours. On a encore 2 autres jeunes en centre de formation. Donc Marie-Claude Tissot qui est partie l'année dernière, qui est au club de Nice. Et Noah Colivaille sur le pôle de Paris.
Yann Collet, on n'oublie pas que le handball est la discipline collective la plus titrée, je crois, en sport collectif, hein, que ce soit aux Mondiaux, aux JO. Il y a vraiment une longue histoire maintenant de titres du handball. Est-ce que vous sentez que cette dynamique profite aussi au handball calédonien? Est-ce que ça suscite des vocations ou est-ce que finalement c'est encore un sport qui a du mal à passer la barrière?
Mais justement, cette année, on relance vraiment avec la Ligue un gros plan de développement, puisque c'est vrai qu'on arrive à faire ici, en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on arrive à faire, je pense, nulle part ailleurs, grâce au travail au Pôle Espoir de Nouméa. On arrive à sortir des jeunes, donc là, plus d'une dizaine, sur des parcours de haut niveau, alors qu'on est au mieux 400-500 licenciés sur le territoire. Donc c'est vrai que la proportion est énorme, hein, sur la réussite de nos jeunes athlètes vers le haut niveau. Donc c'est vrai que là, on a vraiment à cœur de recréer du club, de recréer du licencié, d'aller chercher les jeunes et les moins jeunes dans les différentes communes qui ont des clubs, et puis pourquoi pas de recréer des clubs, notamment. Donc là, on est sur un programme où on va essayer de développer le handball dans le Nord, hein, puisqu'on n'a que Poya pour l'instant comme club au Nord. Donc voilà. Et puis on appellera les îles aussi dans les années à venir.
Ouais, parce que justement, voilà, on évoquait ceux qui sont partis, déjà les pépites envoyées du côté de la métropole. 2025, déjà en 2024, vous nous aviez fait un beau cadeau de fin d'année avec les garçons, les moins de 17 ans, les moins de 19 ans qui s'étaient imposés sur l'IHF Trophy. Vous avez récidivé cette année avec les filles, moins de 17 ans, moins de 19 ans, toutes les deux titrées dans cette compétition régionale. Olivia Vaitanakis, c'est toujours le travail qui continue de suivre son cours, et c'est important toujours pour ces nouvelles générations qui pointent le bout de leur nez.
Oui, il y a une belle dynamique. Donc là, on développe pas mal au niveau des écoles primaires. Et c'est vrai qu'il y a un beau travail fait au niveau des clubs aussi. Donc, tout associé permet de garder un bon niveau au niveau de l'Océanie et de briller au niveau des IHF.
Voilà. Et puis justement, la suite là, pour toutes ces générations, ils sont de plus en plus nombreuses à évoluer et à ramener des résultats importants sur la scène régionale. Ça va être quoi déjà les perspectives, Yann Collet?
Donc là, c'est les intercontinentaux, hein, pour les filles U17 et U19 qui vont se jouer en début d'année prochaine. Donc ça va être la prochaine étape. Et puis après, les garçons qui vont enchaîner, hein, puisqu'on alterne une année sur deux les garçons et les filles. Donc la préparation des garçons dès le début d'année aussi 2026, hein, qui vont faire leur préparation pour l'IHF Trophy garçons.
Alors, on vous avez commencé de mettre le doigt dessus. Il y a cette partie compétition, cette partie haut niveau, mais il y a aussi cette partie amener le maximum de personnes à venir, à s'essayer au handball, à attirer un large public. De nombreuses actions, hein, vous le disiez, qui ont été menées cette année. Vous étiez aussi présent d'ailleurs dans un autre format au BNC Beach Sport Festival, hein, c'est bien ça. Selon vous, le bilan de 2025 pour continuer de se faire connaître, continuer d'attirer des jeunes, des joueurs, même moins jeunes, ça a été dans le bon sens selon vous?
Oui, pour l'instant, je pense qu'on est sur le bon chemin. Alors, le gros du chemin va être fait avec l'embauche d'un éducateur sportif. donc qui embauche aujourd'hui justement au 1er décembre. Donc on le salue, c'est Donovan Achung qui fait un travail déjà qui porte ses fruits. Donc on espère qu'il va nous ramener plein de licenciés. Donc il intervient dans les écoles. Donc on a un partenariat avec la province sud pour rentrer justement le handball dans le répertoire de la province sud, pour pouvoir proposer justement des cycles de handball chez les jeunes. Et aussi un cycle qu'on va proposer dans les écoles maternelles. Donc là, c'est un gros travail de Donovan pour l'année prochaine. Après, on lance aussi le beach handball, donc le handball sur plage qui a commencé avec le BNC Beach Festival. Et donc, c'est des actions aussi que l'on va répéter au courant de l'année 2026.
Ça aussi, Olivia Vaitanaki, depuis tant d'années, vous deux à être les mains dans le cambouis dans ce handball calédonien et à voir que petit à petit, il y a les performances dans le haut niveau qui portent leurs fruits. Et puis, petit à petit, on voit des choses éclore, des projets de ce type. C'est un plaisir à vos yeux?
Bah oui, parce que plus on pratique et voilà, plus on est content. Et c'est vrai que les différentes pratiques du handball, que ce soit sur le beach, sur du hand à 4, sur du hand à 7 et même hand fit qui est proposé, qui est du hand santé, c'est vrai que ça permet de réunir différents publics et de pratiquer dans une ambiance assez sympathique et sous différentes formes. Donc ça donne une certaine dynamique et on espère que justement ça va porter ses fruits et amener de plus en plus de licenciés dans tous nos différents handballs.
Eh bien, Yann Collet, en guise de conclusion, que souhaiter pour le handball calédonien déjà pour 2026? Un nouveau pas de franchi, vous le disiez, avec un technicien à votre service. Continuez d'aller dans ce sens-là?
Voilà, moi ce que je souhaite, c'est vraiment que le handball... trouve de nouveaux licenciés, parce que on le voit que avec le peu qu'on arrive à avoir de licenciés, on arrive à faire émerger une élite qui se débrouille très bien. On arrive à performer au niveau océanien, au niveau international avec nos individus. Donc là, j'en appelle à tous les amoureux du sport, des sports collectifs, et de s'essayer au handball, puisque c'est un sport dans lequel les Calédoniens réussissent parfaitement bien. Donc chaussez les chaussures. Venez dans les gymnases
et allez sur les terrains.
On va faire de belles choses.
Et ceux qui voudraient découvrir le handball, ils peuvent. La saison n'est pas tout à fait terminée. Il y a encore une petite coupe à Noël.
Voilà, donc on a une coupe Noël.
La coupe de Noël.
Merci beaucoup. Qui se termine en plus par un bal. Ah. Donc voilà. Donc,
double raison d'y aller alors.
Double raison d'y aller. Donc c'est une grosse journée festive handball qui va se dérouler à Lanzvata, donc le 20 décembre. Donc toute la journée du handball qui se termine par une soirée. Animé par des musiciens. Donc voilà, ça va être très sympa. Et un repas.
Eh ben, le message est parfait. De 8h à 17h, on l'avait bien noté. Merci beaucoup, Olivia Vaitanaki et Yann Collet, d'avoir accepté notre invitation ce midi dans le Mac des Sports.
Merci à tous les deux. Une pause dans ce magazine des sports. On se retrouve dans un instant pour évoquer les résultats du week-end en Calédonie. À tout de suite.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Après les Pink Floyd, Dire Straits et Santana, les musiciens du Golden Tribute vous replongent dans l'univers unique de Supertramp vendredi 5 décembre au On The Beach. L'occasion de rendre hommage à Rick Davies, membre fondateur et voix emblématique de Supertramp, disparu récemment. Billetterie sur ticket.nc, prévente 2600 francs. Sur place, 3000 francs, paiement par chèque ou espèce. D'autres points de vente, Campus System, Faubourg Blanchot, Fix & Go à Ducasse et Photodiscount Anzvata. Rendez-vous au On The Beach vendredi 5 décembre pour une soirée vibrante et nostalgique avec des titres légendaires comme The Logical Song, Dreamer, Goodbye Stranger ou encore Breakfast in America.
Voilà, et jusqu'à vendredi, on vous fait gagner 2 places par jour. Vous envoyez bien sûr invite au 1-INVIT pour bien épeler le mot et vous l'envoyez au 3146. On vous souhaite une bonne chance. 2 places par jour, la suite.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Tout le sport, en 3 lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, pour revenir sur les résultats du week-end en Calédonie et ce beau succès pour la Casino Padel Cup, l'événement s'est terminé en beauté samedi soir au tennis club du Montcoffin, Michael.
Encore dans une magnifique ambiance pour conclure ce tournoi. Un public venu nombreux pour assister au dénouement de cette compétition qui se jouait, on le rappelle, en présence d'invités classés au niveau international. Chez les dames, dans une finale 100% métropolitaine, c'est la paire Nada Majoubi-Fiona Ligi qui s'est imposée face au duo Cassandra Saint-Jean et Gracia Radovanovic. Succès en 3-7, la réaction des grandes gagnantes de ce tournoi.
Une finale reste une finale. On joue contre Cass, qui est une copine, et Gracia qu'on connaît. Mais bien évidemment que la win devait être au rendez-vous pour nous. On devait tout donner. Elles ont très bien joué, elles ont fait leur match et on est contentes du résultat, bien évidemment.
De revenir ici, c'est le kiff total. Moi, j'adore les gens, le public, des rencontres, des gens qu'on revoit. D'avoir autant de spectacles et autant de monde, c'est vraiment génial de voir chaque année, il y a de plus en plus de monde et l'ampleur que ça prend, c'est trop bien.
C'est vraiment génial. Moi, c'est la première fois ici. Ça prend de l'ampleur de dingue. Ça fait plaisir vraiment pour le sport, pour le paddle. On voit nous ça en métropole, mais de voir ça ici, ça fait vraiment chaud au cœur. Les gens sont adorables. On a été hyper bien accueillis, hyper bien traités. Enfin, franchement, une semaine de rêve et on espère avoir l'occasion de revenir une prochaine fois.
Voilà pour les gagnantes. Chez les messieurs, dans une finale entre Espagnols et Australiens, ce sont les Espagnols qui l'ont emporté. Aitor Garcia et Adrián Mercadal contre Dominic Béchard et Andrea Melissi. On retiendra donc surtout ce beau succès populaire tout au long de la semaine autour du Padel, la Casino Padel Cup qui a attiré la foule encore samedi soir. Des centaines de spectateurs venus au final au Tennis Club du Montcoffin.
Il y avait aussi une belle ambiance samedi sur la promenade Pierre Vernier à Nouméa. C'était la Volvic Run and Bike.
Ouais, le défi atypique, quelques 13 km, un vélo pour deux. Et oui, c'est le principe, événement organisé par la Sport Team et qui a ravi les participants. Le tout était de trouver la meilleure stratégie en duo.
C'est la quatrième fois que je le fais et toujours en équipe féminine, donc ouais, c'est toujours un bon moment de partage.
Nous, c'était un peu de manière aléatoire, c'était quand l'autre avait bien récupéré sur le vélo et que celui en course à pied, il se sentait plus trop pour aller vite, on changeait.
Et on change et voilà.
C'était top, c'est régalé, très très chaud, mais c'est génial. Un vélo pour deux, on change toutes les minutes à peu près. Le vélo nous permet de récupérer et de pouvoir accélérer après sur la course.
C'était chaud, mais c'était très très bien. Vraiment intense, c'est super organisation et super ambiance. C'est la particularité du run and bike, c'est un peu à bloc tout le temps, donc sur le vélo on récupère vite. On faisait des relais de 1 minute, 45 secondes, 1 minute, et puis on tournait, sauf sur la fin on faisait un peu plus court, quand on était un peu plus cramé. Quoi.
Dur pour moi, parce que j'ai repris longtemps il y a 15 jours, mais sinon j'ai un bon équipier, alors...
Et allez, fair play.
Vous avez mis le paquet sur le déguisement.
Alors c'est une belle tenue d'avatar, donc moi je suis... Jacques Sculli, c'est ça?
Bah alors, tu connais pas ta princesse?
Neytiri, Neytiri.
Une heure de préparation à peu près, ça va. On a choisi l'option le moins d'ustensiles possible sur nous, donc le body painting, c'est parfait.
Voilà, côté résultat, la victoire est revenue à une équipe mixte. Le duo Florian Marot-Angélique Plaire qui l'a emporté. Des animations étaient aussi prévues pour les jeunes, de même qu'une Milo Fun Race, une course à obstacles pour les plus petits.
On va passer au badminton. C'était en effet ce week-end le championnat de la province sud adulte.
Ouais, la compétition qui se déroulait à la salle Ernest Wadeo de Dimbéa. C'était aussi l'occasion de préparer les jeunes les plus prometteurs, car s'il n'y aura plus qu'une compétition en vue cette année, certains pensent déjà au déplacement à partir de février pour les Océania.
Je m'appelle Sarah Doarch. J'ai 13 ans et je suis au club au CJI.
Moi, c'est Liam Sargito. J'ai 12 ans et je suis au CJI.
En février, il y a des Océania en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Il faut bien gérer parce qu'il y a le stress et il faut beaucoup se préparer.
Pendant qu'on est en compétition ici, on se dit déjà ça approche, c'est dans à peine 4 mois.
Ouais, il faut bien se dire qu'il ne faut pas, se blesser, il faut penser à tout, quoi.
C'est dur parce que je joue dans l'une des plus fortes catégories et moi, bah, je suis un peu en dessous, du coup bah, je perds et puis voilà. La chaleur, ça fait perdre beaucoup d'énergie, du coup c'est très dur. On se prépare mentalement, physiquement et tout, parce que arriver là-bas, ce sera pas facile non plus. Parce que c'est des U17 en plus, du coup, bah, surtout pour moi j'ai 12 ans et puis je joue en U17, du coup c'est comme là, dans le tournoi adulte, ils sont plus grands.
Apprendre à être dans la difficulté aujourd'hui, mais pour être encore meilleur demain.
Oui.
Et plus d'une centaine de joueurs qui disputaient ce week-end, donc ces championnats de la province sud de badminton.
D'autres résultats, Michael?
Oui, des sports de raquettes encore, avec les résultats du top 8 territorial en clôture de la saison 2025 de tennis de table. Chez les messieurs, Emmanuel Bruchard de l'AS Magenta a terminé en tête devant Jérémy Day de l'Olympique et Olivier Clouet du club du Mont d'Or. Chez les dames, Ornella Bouteille de Koumac a fini première devant Fabiana Fayao, également de Koumac, et Vanita Martin de Païtache. Les championnats de Calédonie V12 mixte en va dans la baie de Lance-Vata. Chez les Legend, c'est le club de Tourcoing qui l'a emporté devant le Mondor Sud en Open messieurs et dames sur 14 km. C'est encore le club de Tourcoing qui s'est imposé devant la SPTT et le Mondor. Une centaine de karatéka étaient quant à eux réunis au complexe d'arts martiaux Jean-Robert Monnier d'Auteuil samedi à Dimbéa pour la Coupe de Noël avec les plus petites catégories d'âge notamment qui achevaient leur saison. En voile, la fin du challenge croiseur du CNC qui aura vu la victoire de l'équipage de Pulpito en temps réel comme en temps compensé ce week-end. Et puis encore quelques nouvelles hors du territoire et encore en voile, un nouveau podium international pour Nicolas Goyard en planche à voile IQ Foil. Le Calédonien a terminé vice-champion d'Europe de la discipline à l'occasion d'une compétition organisée en Italie, c'était au large de la Sicile. Enfin du basket avec la Coupe du Pacifique qui se jouait à Tahiti, les rencontres entre les champions de Calédonie et de Polynésie française pour rallier la Coupe de France. Chez les dames, les Tahitiennes d'Aorai ont battu les joueuses du Mondor 88-29. Chez les messieurs, les Calédoniens de Dimbéa ont battu leurs meilleurs rivaux d'Excelsior sur le score serré de 69-65.
Et pour terminer, parlons de ce nouvel événement international qui démarre ce soir sur le territoire. C'est l'Open de squash BNP Paribas, organisé par le Dimbéa SC en hommage à Enzo Corigliano, Léo.
Oui, une édition effectivement dédiée à ce jeune espoir du squash calédonien tragiquement disparu. C'était en 2020. Une compétition qui se jouera à Auteuil dans la salle qui porte désormais son nom. Cette année, une soixantaine de joueurs seront présents, les meilleurs du territoire, des jeunes prometteurs et puis quatre internationaux. Yann Bouvet, le président du Dimbéa Squash Club.
Notamment de Nouvelle-Zélande. Alors, ils ne sont pas que de Nouvelle-Zélande. C'est Grande-Bretagne et Samoa et Tahiti. Mais ils jouent en Nouvelle-Zélande. Pour tous, ils sont professionnels et sont des jeunes joueurs. Donc, c'est les futurs grands joueurs de demain. Ça commence aujourd'hui par la présentation. Donc, c'est les premiers matchs sont toujours un peu plus faciles pour des joueurs de ce calibre. Ça va permettre au fur et à mesure de la semaine de les opposer aux meilleurs calédoniens. On a notre champion en titre, Nicolas Masnec, Laurent Guépi, qui a été vice-champion de France cette année. C'est important. On a une championne du Pacifique en Calédonie, Vanessa Quash. Et puis, on a des jeunes qui poussent. C'est à la fois pour les Calédoniens une façon d'augmenter leur niveau. Hein. Et puis, c'est une grosse préparation parce que dans un an, il y a les Jeux du Pacifique. Donc, tous les meilleurs Calédoniens seront là.
Les premières parties de ce tournoi international de squash débuteront donc à 18h à la salle Enzo Corigliano de Dimbéa. Les finales sont prévues samedi en fin de journée.
Il est midi et 27 minutes, c'est la fin de ce magazine des sports. Merci de votre attention. Infomax se poursuit avec Thierry que vous retrouvez jusqu'à 13h qui sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Bel après-midi.